VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 juillet 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, Lambert Mende, l'ex-porte-parole de l'ancien président Joseph Kabila, a été publiquement accusé de déni de démocratie par le représentant de l'Union européenne.
En Centrafrique, le gouvernement soutient que des progrès ont été enregistrés pour la levée de l'embargo sur les armes.
L'Iran a tenté de saisir un pétrolier britannique dans le golfe Persique, rapporte la chaîne CNN.
Ici à Washington, le ministre du Travail, Alexander Acosta, se défend d'avoir favorisé il y a plus de 10 ans le milliardaire Jeffrey Epstein, accusé d'abus sexuels sur des mineurs.
Et en sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour l'instant, le journal.
Le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo a publiquement accusé hier Lambert Mende, l'ex-porte-parole de l'ancien président Joseph Kabila, de déni de démocratie, justifiant ainsi les sanctions de Bruxelles à son égard. Le point avec Eddy Issango.
Encore une fois, les élections au Sankuru en RDC sont annulées. Encore une fois, Lambert Mende fait obstacle et justifie les sanctions imposées à son égard par l'Union européenne, a posté sur Twitter Guillaume Chartrain, premier conseiller de la délégation de l'Union européenne. Nous serons vigilants quant aux décisions prises à la suite de ces nouveaux dénis des démocraties locales, a ajouté M. Chartrain. Lambert Mende est candidat au poste de gouverneur dans sa province du Sankuru. La consultation des députés provinciaux prévue hier a été reportée au 20 juillet. Le Sankuru est la dernière des 26 provinces où l'élection du gouverneur n'a toujours pas eu lieu. Initialement candidat unique, M. Mende, ancien porte-parole du gouvernement, avait saisi la Cour constitutionnelle contre la réhabilitation de son rival Joseph Stéphane Mukumadi. La candidature de ce dernier avait été invalidée puis rétablie sur décision du Conseil d'État.
En République centrafricaine, le gouvernement affirme que des progrès ont été faits en vue de la levée de l'embargo sur les armes, conformément aux dispositions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Des officiers supérieurs et des officiers subalternes de l'armée ont été informés sur la gestion et le stockage des munitions et armes en ce qui concerne les armureries. Nous sommes prêts, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazaghi. D'après lui, les progrès actuels dans la mise en œuvre du programme de désarmement s'inscrivent dans le cadre de la levée de l'embargo sur les armes à destination de la RCA. La mission de l'ONU en RCA, la MINUSCA, a rappelé que le Conseil de sécurité avait adopté un chronogramme en janvier demandant à la République centrafricaine de fournir en juin un rapport sur les progrès enregistrés dans le cadre de la gestion ainsi que le stockage des armes. Le Conseil a déjà accepté des demandes de levée partielle, permettant ainsi à la Russie et à la France de fournir des armes aux FACA, les forces armées de la Centrafrique.
Un accord de coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger a été signé hier à Ouagadougou. Il porte notamment sur la sécurité et le développement, Raissa Girondin.
C'est un accord de coopération dans différents domaines, dont la sécurité, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la santé et l'éducation. D'après le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui a signé ce texte avec son homologue nigérien. D'une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, cet accord permettra de mettre en place de façon concertée des projets de développement qui couvrent les espaces qui sont voisins et parfois même avec les populations. Ces populations qui appartiennent aux deux pays vont avoir une vie en commun, un développement en commun et une perspective d'avenir en commun, a réagi le chef de la diplomatie nigérienne, Kala Ankwaru, saluant un accord original. Ces deux pays pauvres du Sahel sont confrontés à des groupes islamistes et du banditisme et partagent un millier de kilomètres de frontières poreuses.
Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est dit préoccupé par, je cite, « les ingérences extérieures persistantes dans les affaires intérieures de ce pays, ingérences motivées par des intérêts égoïstes ». Et il a proposé la nomination d'un envoyé spécial aux ONU-UA en vue de renforcer la coordination des efforts des deux organisations sur la base d'une feuille de route unique à élaborer par l'émissaire en question. C'est ce qui ressort des conclusions du récent sommet de l'UA à Niamey, selon un texte transmis hier à l'AFP.
En Algérie, le député islamiste Slimane Chenine, président du groupe parlementaire d'une alliance formée par trois partis islamistes de l'opposition, a été élu hier soir président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, a annoncé la télévision nationale. Il remplace Mouad Bouchareb, qui, contesté par les députés, dans son parti et dans la rue, avait démissionné le 2 juillet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le ministre du Travail, Alexander Acosta, a défendu hier ses actions quand il était procureur fédéral en Floride, il y a plus d'une décennie, et avait accepté en ce moment une peine de prison plutôt légère pour le financier Jeffrey Epstein, un milliardaire américain accusé d'abus sexuels sur des mineurs. Epstein a de nouveau été inculpé lundi et risque cette fois-ci jusqu'à 45 ans de prison. Monsieur Acosta a déclaré hier dans une conférence de presse « Notre but était clair, mettre Epstein en prison pour assurer qu'il soit inscrit sur la liste des délinquants sexuels, donner aux victimes les moyens de demander réparation ». Des membres du Congrès, dont les deux leaders des parlementaires démocrates, ont réclamé sa démission.
Des bateaux armés de l'Iran ont tenté hier de saisir un pétrolier britannique dans les eaux stratégiques du Golfe Persique, mais selon la chaîne CNN, ils ont été repoussés par une frégate de la Royal Navy qui escortait le pétrolier quand elle a pointé ses armes sur les bateaux iraniens en leur intimant de s'éloigner. Ces derniers avaient ordonné au British Heritage, qui naviguait dans la zone du détroit d'Ormuz, de changer sa trajectoire pour s'arrêter dans les eaux territoriales iraniennes proches.
Le président libanais, Michel Aoun, a fait part hier de son regret au lendemain de l'annonce de sanctions américaines contre des élus du mouvement chiite Hezbollah. Le président du Parlement, Nabi Berri, autre allié de la puissante formation, a dénoncé une agression contre le Liban. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Le Liban regrette le recours par les États-Unis à ce genre de mesures visant des députés élus, a indiqué Michel Aoun dans un communiqué. Le premier ministre Saad Hariri a pour sa part souligné que ces nouvelles sanctions visant le Hezbollah représentent un tournant du fait qu'elles touchent des députés. Les sanctions américaines ont été vivement condamnées par le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, selon qui elles s'apparentent à une agression contre la Chambre des représentants et certainement contre le Liban. Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre deux députés du Hezbollah, Amin Chéri et Mohamed Hassan Rad, accusés d'exploiter le système politique et financier du Liban au profit du Hezbollah et de l'Iran. Ils ont également sanctionné Wafik Safa, chef de l'appareil sécuritaire du Hezbollah, allié de l'Iran et considéré par Washington comme une organisation terroriste.
Le président républicain de la Commission des affaires étrangères au Sénat américain, James Risch, a soumis une proposition de loi qui punirait l'Arabie saoudite pour ses violations des droits de l'homme, mais ne bloquerait pas les ventes d'armes au royaume wahhabite. « Nous devons décourager toute agression iranienne, mais ne devons pas laisser l'Arabie saoudite vulnérable », a expliqué le sénateur Risch. Parmi les violations qu'il a citées, le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, les droits des femmes ainsi que les frappes aériennes de la coalition menée par Riyad au Yémen et qui ont fait des milliers de morts parmi les civils.
Plus de 20 ambassadeurs aux Nations Unies ont envoyé une lettre au Conseil des droits de l'homme à Genève pour condamner le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours et autres musulmans de la région du Xinjiang. Ces ambassadeurs, des Européens pour la plupart, ont préféré exprimer leurs préoccupations par cette voie plutôt que de proposer une résolution que la Chine, qui dément ces accusations, aurait sans doute bloquée.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Le Sénégal et le Nigeria sont les premiers pays qualifiés pour les demi-finales de cette CAN Égypte 2019. Face aux écureuils du Bénin au stade du 30 juin du Caire, les Lions de la Teranga ont donné tout pour venir à bout des Béninois battus 1-0. Un but inscrit à la 70e minute par Idrissa Ganagé. Sadio Mané et ses coéquipiers ont souffert dans ce duel ouest-africain pour atteindre le dernier carré de la CAN. Pour une place en finale, le Sénégal jouera dimanche contre Madagascar ou la Tunisie. Tunisie qui s'affrontent ce soir. De leur côté, les Super Eagles se sont fait peur face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le Nigeria a ouvert le score à la 27e minute grâce à un but de Samuel Chukwueze avant d'être rejoint par l'Afrique du Sud à la 74e sur une réalisation de Bongani Zungu. C'est William Trost-Ekong qui a donné la victoire et le ticket pour le dernier carré au Nigérian à la 89e. Ce soir, justement, à 19h, temps universel, les surprenants Baria auront fort à faire contre les Aigles de Carthage. Face aux Malgaches, les Tunisiens auront peut-être l'occasion de signer leur première victoire dans cette CAN après 4 nuls enregistrés jusqu'ici. Mais le sélectionneur de la Tunisie le sait, Madagascar voudra surfer sur sa bonne lancée dans cette CAN. Alain Giresse.
C'est un adversaire qui est dans une situation totalement euphorique. Leur CAN est déjà totalement réussie. Ça, on en est conscient. Donc, ce match-là sera encore très difficile à jouer, à appréhender, et il faudra le prendre comme tel en respectant cette équipe qui a fait de superbes résultats dans cette compétition.
Bien avant ce match, à 16h temps universel, moins en vue que les années antérieures, la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée au forceps face au Mali devra être beaucoup plus costaud face à l'équipe en forme de cette CAN, l'Algérie.
Sur les stats qu'ils font, ils sont nettement favoris parce que quand tu fais une compétition, tu perds pas de match, t'encaisses pas de but, t'emmènes 9 à tout le monde. Donc ça veut dire que c'est quand même une belle équipe. Derrière, ils sont costauds. Au milieu de terrain, ils ont de bons joueurs. Devant, ça va vite. Maintenant, on va pas dire que l'Algérie nous fait peur. Non, ça reste un match de foot. Chacun viendra avec ses forces, avec ses qualités. À la fin du match, on fera les bilans.
Ibrahim Camara, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent compter sur un soutien de taille, celui de leur président qui croit en cette équipe. Alassane Ouattara.
Maintenant, nous continuons. Nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203.
Si cela arrivait, les Ivoiriens resteront la bête noire des Algériens en Coupe d'Afrique des Nations. Sur cette confrontation, le bilan est favorable aux éléphants avec 3 victoires contre 2. La dernière 3-1 à cette même étape de la CAN 2015. Le sélectionneur de l'Algérie ne manque pas d'éloges à l'égard des éléphants.
Cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui arrivent aussi avec la conviction de pouvoir gagner, l'objectif de gagner.
Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie. Algérie, Côte d'Ivoire et Tunisie, Madagascar. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Les derniers quarts de finale de jeudi proposent la même opposition de style entre le football latin des représentants maghrébins encore en vie et 2 formations subsahariennes aux qualités physiques qu'on connaît. Pourtant, au niveau du rapport de force, la problématique reste la même que lors de la journée précédente. Pour le match de Suez qui oppose l'Algérie à la Côte d'Ivoire, le parieur imprudent donnerait au Fenech la communion sans confession au vu de leur excellent parcours et la qualité irréprochable de leur production, là où les Ivoiriens semblent avoir plus peiné. Mais ce serait ignorer que ce sont les éléphants les moins éblouissants, mais les plus réalistes, comme ceux de 92 et 2015 qui ont souvent soulevé le trophée. Alors, prudence. Pour ce match, c'est le scénario de la rencontre qui sera déterminant. En première heure au Caire, le rapport de force semble nettement en défaveur de courageux malgaches que certains pensent en fin de course. En fait, Madagascar vit peut-être l'événement fondateur de son football moderne à l'image de ce que le Burkina Faso a connu lors de l'édition 98 qu'il abritait. En effet, l'existence sur la scène continentale de pays des hommes intègres avait enfin exploité son vivier humain qui jusque-là n'avait profité qu'au football du voisin ivoirien. Résultat, une demi-finale méritée et une réorganisation qui allait amener le football burkinabé au niveau qu'il a depuis plus d'une décennie. Le parcours sportif et l'engouement populaire de Malgache qui semblent avoir pris à leur compte le fameux slogan de l'époque « Décourager n'est pas burkinabé » peut aussi les conduire jusqu'au carré d'as, sauf si les Tunisiens, si parcimonieux dans la performance, mais souvent réalistes dans la dernière ligne droite, ne viennent jouer les rabat-joie.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'armée française a annoncé, je cite, la mise en sommeil de sa base de Madama dans le nord du Niger et elle compte engager les moyens de cette base dans le Liptako-Gourma, l'espace frontalier que se partagent le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Des réactions à Niamey avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
La décision de l'état-major des armées françaises et sa justification sont parfaitement comprises et acceptées par les autorités nigériennes, selon Kalla Moutari, le ministre de la Défense.
C'est une décision souveraine française, mais que les Nigériens comprennent parfaitement parce qu'il s'agit en fait des préoccupations, l'installation des détachements militaires au Pondé à des impératifs de sécurité. Et les impératifs de sécurité aujourd'hui sont plus importants dans le Gourma que ne le sont dans cette partie du Niger qui est totalement sous contrôle.
Les Français quittent Madama mais ne quittent pas le Niger, encore moins le Sahel. Il n'y a donc aucune fierté à avoir, estime l'activiste Ibrahim Diori de l'association Alternative Espace Citoyen.
J'estime que cet espace sahélien, en fait, ce n'est pas un espace souverain. C'est un espace qui leur appartient. À eux d'organiser la défense des intérêts français et en fonction justement de ce que cet intérêt dicte, ils vont déterminer là où ils vont être. Et j'estime que pour ce cas précis, selon eux, leur intérêt se trouve dans cette partie malienne. Mais pour eux, en fait, ça ne signifie pas quitter le Niger, c'est quitter Madama. C'est deux choses, à mon avis, différentes. Ils vont continuer à exercer leur domination et je pense qu'il n'y a aucune fierté, au fond, en dernier ressort, pour nous autres qui souhaiterions les voir quitter carrément notre pays, sinon au besoin, l'espace sahélien et plus généralement l'Afrique dans son ensemble.
Pour Moussa Aksar, journaliste spécialiste des questions de sécurité, les raisons de cette décision sont à regarder ailleurs.
Je pense qu'ils ont fini un travail. Vous rappelez pourquoi cette base-là est installée, c'est pour surveiller la passe de Salvador, c'est pour surveiller les flux des terroristes qui viennent de la Libye. Mais entre-temps, on notera vraiment, selon nos informations, elle avait plus d'autres motivations qui peuvent être, vous savez qu'il y a des rebelles tchadiens qui passaient par cette zone-là. Au moment où Déby a commencé à parler du franc CFA, a commencé un peu à s'émanciper de la même mise de la France. On a vu comment quelques individus ont été armés, mais qui passaient par le Niger pour aller attaquer son territoire. Le départ de ces Français de cette base-là coïncide avec la découverte des missiles français sur une base du Marshal Haftar dans le sud libyen. Donc apparemment, cette base-là, elle a joué son rôle. Il ne faut pas être dupe.
La base militaire française de Madama avait officiellement pour mission de mieux contrôler les flux de ravitaillement des groupes terroristes au niveau des passes de Toumo et de Salvador par où transitent les trafiquants. Elle était également très bien placée pour des opérations spéciales dans la région. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Mauritanie, le blogueur Mohamed Cher Ould Mkhaitir est maintenu en détention au-delà de sa peine après une condamnation pour un article jugé blasphématoire sur l'islam. Ould Mkhaitir, 36 ans, est détenu depuis janvier 2014. Il a vu sa condamnation à mort pour apostasie ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017. Sur le sort de ce blogueur mauritanien, Idriss Fall a contacté à Nouakchott son avocate Fatima Mbaye.
Le dossier est encore en cours. Mon client n'est pas encore totalement libre. Il avait été condamné à 2 ans en 2017. Et depuis novembre 2017, à ce jour, il n'était pas du tout libéré. Il était mis dans une autre prison secrète. Et depuis un certain temps après les élections, donc les autorités s'activent autour de ce dossier. Bon, pour nous, ce qui est important dans cette affaire, c'est que notre client avait été délivré de la peine de mort par la Cour suprême, ensuite par la Cour d'appel. Sa mise en détention arbitraire doit prendre fin parce que cela ne se justifie ni légalement, ni par aucune autre voie officieuse. Et que si c'était pour sa sécurité, nous pensons que personne ne doit être retenu contre sa volonté. Et aujourd'hui, si les autorités mauritaniennes décident de le libérer, je pense que c'est une très bonne chose et nous saluons cette décision. Nous pensons que Mohamed doit être rétabli dans ses droits.
Et apparemment, on nous dit que le président Mohamed Ould Abdelaziz a consulté des oulémas qui demandent de repentir en public. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça?
Nous, en tant qu'avocat, on n'a pas été consulté, donc on n'a pas été associé du tout dans cette procédure de conciliation, de consultation avec les oulémas. Et nous pensons déjà que notre client avait déjà fait un repentir devant le tribunal, aussi bien depuis son arrestation jusqu'au jour de son jugement, pratiquement devant tous les tribunaux où il est passé. Il a toujours exprimé son repentir. Et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, lui demander de se repentir, ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire à sa position. Il s'est toujours dit qu'il n'a jamais voulu ni de près ni de loin offenser les prophètes salut sur lui, encore moins les principes de l'islam. Aujourd'hui, lui demander de se présenter devant une télévision, pour nous, nous mettre un peu de réserve là-dessus, mais si ça doit en tout cas servir à sa libération, qu'on le libère, mais nous pensons que le repentir, il l'a déjà fait, et donc ce repentir qui est déjà trouvé dans le dossier pouvait très bien être publié. Il n'avait pas besoin en tout cas d'aller devant la télévision ou d'aller devant une place publique afin de dire qu'il s'est repenti. Il s'est repenti, sa repentance était sincère, ça a été constaté comme cela est dit dans la loi mauritanienne. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si les autorités décident de le libérer, ils devraient le libérer sans aucune condition.
Mais au moins, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est détenu?
Moi, personnellement, je ne sais pas. Le dernier jour où je l'ai vu, c'était le 9 novembre 2017, le jour même où il a été condamné à 2 ans par la Cour d'appel de Ouagadougou. Et depuis lors, donc personnellement, je ne sais pas où il est. Je ne peux pas vous dire qu'il est dans tel endroit ou tel autre endroit. Je ne sais pas non plus qui le détient. La seule chose que je sais, d'après les informations que j'ai pu recueillir auprès des autorités, c'est qu'il est mis en lieu sûr pour sa sécurité personnelle. Voilà.
L'avocate du blogueur mauritanien Ould Mahaitir, Fatima Tambay.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, divorce entre l'AFDC-A et le FCC, coalition proche de l'ancien président Joseph Kabila, suite à des désaccords sur le choix pour la présidence du Sénat. Le dirigeant du deuxième plus grand regroupement politique de la coalition de l'ancien pouvoir confirme avoir repris son autonomie après sa suspension. Eddy Issango a joint à Kinshasa le leader de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, Modeste Bahati Lukwebo.
Nous avons pris acte de leur décision de nous exclure à durée indéterminée, donc d'exclure le regroupement, parce qu'on n'exclut pas les personnes physiques, parce que moi-même, en tant que personne physique, je ne représente pas ma personne, mais le regroupement, c'est le regroupement qui est exclu.
Maintenant, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez rejoindre les CASH avec le président Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, ou l'autre camp de l'opposition, la MOCA, ou encore autre chose?
Pour le moment, nous avons repris notre liberté et notre autonomie totale. Et les autres questions, nous allons les étudier au vu de la situation politique du moment. Ce qui est vrai, c'est que nous pouvons louer librement n'importe quelle alliance et nous n'aurons pas de compte à demander à qui que ce soit.
Que devient alors votre candidature, puisque vous avez justement été exclu parce que vous mainteniez cette candidature pour l'élection au poste du président du Sénat?
Comme vous le savez, nous nous sommes toujours battus pour l'état de droit, pour la justice et l'équité. Nous refusons toute dictature d'où qu'elle vienne. Nous l'avons démontré depuis la conférence nationale souveraine et dans tous les forums qui se sont tenus dans le pays. Comme vous le savez, 95% des membres de l'AFDC alliés viennent de la société civile. Et donc ce combat-là que nous menons nous amène à sauvegarder certaines valeurs. Et ici, la valeur démocratique, pour nous, elle est indiscutable. Voilà pourquoi nous estimions que la charte du FCC dispose qu'on doit tenir compte du poids politique de chaque regroupement ou chaque parti politique lorsqu'il y a des responsabilités à distribuer. Et pour le cas d'espèce, pour la présidence du Sénat, l'AFDC estimait légitimement qu'en tant que deuxième force politique du pays, pays méritait de diriger une institution, d'autant plus que le PPRD, qui est la première force, dirige déjà le gouvernement par son premier ministre et l'Assemblée nationale par sa présidente. Et donc, il ne restait que le Sénat. Nous avions estimé que nous, comme nous avons 145 élus, c'est-à-dire 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, 2 gouverneurs de province, 7 vice-gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales, nous estimions que de droit, nous devrions briguer ce poste-là, au lieu qu'on le confie à un indépendant qui n'apporte que sa personne. Donc, en termes de poids politique, il n'y a pas de comparaison à faire. Voilà pourquoi les chefs de parti, tout le monde a estimé qu'il fallait nécessairement que nous puissions présenter notre candidature au Sénat.
Vous maintenez la candidature?
Elle est maintenue et elle vient d'être confirmée maintenant là.
Mais il y a 2 jours, quelques présidents de partis de votre regroupement avaient plutôt apporté l'air dévolu à M. Tambou et Alexis.
Mais écoutez, vous ne pouvez quand même pas croire à cela. Ça, c'est le débauchage, ça, c'est le résultat de la corruption, tout simplement.
Modeste Bahati Lukwebo, leader de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, est allié.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Soudan, les leaders de la contestation qui a chassé du pouvoir le président Omar el-Bashir ont abouti à un accord sur la transition avec le conseil militaire qui dirige le pays actuellement. Cet accord porte sur une présidence alternée de la future instance chargée de diriger la transition pendant 3 ans. Pour en savoir davantage, Eric Manirat-Kiza a joint à Khartoum un journaliste qui a requis l'anonymat.
J'ai sous la main le brouillon de cet accord.
Quelle est la chance que vous donnez à cet accord pour la suite de la transition?
Je ne suis pas optimiste parce que l'un des membres du conseil militaire de transition a déclaré avant-hier qu'il n'acceptait pas la composition d'une commission indépendante sur les tueries du quartier général de l'armée soudanaise, tandis que cette clause de commission d'enquête est l'une des 3 parties de l'accord annoncé par le médiateur qui est le représentant de l'Union africaine à Khartoum. Donc c'est le partage du haut pouvoir entre civils et militaires, la composition d'un conseil des ministres de civils par les forces de liberté et de changement et troisièmement la composition de cette commission d'enquête sur les tueries. En fait, l'accord trouve beaucoup d'opposition, même dans les forces de liberté et de changement. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur les clauses déjà annoncées de cet accord. Généralement, c'est positif.
Et quelles sont les raisons qu'ils avancent, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce document?
Les activistes demandaient un gouvernement totalement civil. Et maintenant, c'est un partage entre civils et militaires. Le Haut Conseil qui va gouverner sera partagé entre les militaires et les civils. Tandis que les révoltés demandaient un gouvernement civil.
Et comment réagit la population? Apparemment, la population est satisfaite.
Le premier jour après l'annonce de l'accord, c'est-à-dire samedi, il y avait des manifestations qui étaient heureux d'avoir cet accord après toute cette période d'agitation, de problèmes de sécurité et tout ça. L'opinion publique est généralement pour l'accord.
Vous êtes activiste. Est-ce que vous pensez que l'engouement à cette révolution, que la flamme est toujours là ou la flamme a baissé d'intensité?
La flamme est là et surtout hier, l'Internet a été revenu au Soudan, et les activistes échangeaient des vidéos qui montraient les atrocités qui ont été commises durant la frappe du sitting du quartier général. Il y a des atrocités terribles. C'est des vidéos qui circulent. La force principale de cette révolte est la jeunesse.
Donc la jeunesse reste mobilisée, c'est ça?
La jeunesse était toujours mobilisée. Elle a resté mobilisée même pendant la période de coupure de l'Internet à travers des messages de téléphone SMS, à travers des visites de maison à maison, à travers des réunions. Mais le retour de l'Internet leur a donné l'occasion d'échanger ces vidéos, des tueurs qui a été commise.
joint à Khartoum un journaliste soudanais qui a requis l'anonymat. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.